La demi-volée de Pavard, un coup franc de Platini, le but en or de Trezeguet, les deux têtes de Zidane. On a tous en tête des buts mythiques marqués par des joueurs de l'équipe de France. Parmi tous ces buts, il y en a forcément un qui vous a marqué plus qu'un autre ou qui a eu une résonance plus grande. Difficile de se prononcer quand même, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast Qui c'est le plus fort ? Et nous allons nous interroger aujourd'hui sur le but le plus important ou le plus marquant de l'histoire de l'équipe de France. Pour m'accompagner, quatre journalistes de la rédaction d'Eurosport, Maxime Dupuis, Laurent Vergne, Martin Mosnier et Glenn Cellier. Salut à tous.
Salut.
Bonjour.
Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors pour commencer, messieurs, quel but avez-vous choisi de défendre, Laurent ?
Un but de Michel Platini, évidemment, et celui qui est, de son point de vue, le plus important de tous, le coup franc contre les Pays-Bas en 1981.
Martin ?
Le but de Laurent Blanc à la Coupe du Monde 98 en huitième de finale de la Coupe du Monde, le but en or même de Laurent Blanc, devrais-je préciser.
Maxime ?
Moi, je suis le mauvais français, je vais défendre le but d'Emile Kostadinov, sans qui rien n'aurait été possible par la suite, 98-2000 et bien d'autres choses.
Et enfin, Glenn ?
Et moi, je vais vous parler d'un but qui a offert un titre à l'équipe de France, celui de David Trezeguet, évidemment, en finale de l'Euro 2000.
Si vous voulez bien, monsieur, je vous propose de commencer de manière chronologique. On n'a qu'à commencer avec Laurent. Laurent, le but de Michel Platini, France-Pays-Bas 1981. Alors, pourquoi c'est un but marquant, important dans l'histoire de l'équipe de France ?
Moi, je l'ai choisi parce que Michel Platini lui-même, on lui avait demandé un jour quel est le but le plus important de tous ceux qu'il a pu mettre en équipe de France, 41, je crois, si je ne me trompe pas. Et il y en a eu évidemment énormément, mais pour lui, c'était celui contre les Pays-Bas. Donc, pour recontextualiser, on est d'ailleurs, ça fera 40 ans, ça fait 40 ans presque jour pour jour. Je crois que c'était le 18 novembre 1981.
Exactement.
Donc, l'équipe de France s'était qualifiée pour la Coupe du Monde précédente en Argentine. C'était la première depuis 1966. Elle n'était pas à l'Euro 1980 en Italie. Et dans ses qualifications, elle s'est placée dans une situation très difficile en perdant aux Pays-Bas, en Belgique et en Irlande aussi, à Dublin. Et donc, à l'automne 81, il reste deux matchs à jouer, à domicile contre les Pays-Bas et à domicile contre Chypre. Les Pays-Bas ont besoin d'un point pour se qualifier. L'équipe de France, elle, est obligée de prendre les quatre points. Alors, Chypre, à l'époque, c'est très faible. C'est pas devenu une grande nation, mais au début des années 80, c'était vraiment encore plus faible qu'aujourd'hui. Donc, ce match-là était considéré comme une formalité. Les Bleus le gagneront 4-0. Donc, le match décisif pour la qualification, il était vraiment contre les Néerlandais, qui étaient double finalistes de la Coupe du Monde en 74, en 78. Mais ils ont une génération qui est vraiment vieillissante. C'est la fin d'une génération, alors que l'équipe de France est tout le contraire. Au début des années 80, à tel point qu'ils ont rappelé Johan Niskens pour ce match, alors qu'il joue au Cosmos de New York, qu'il avait un peu tiré un trait sur tout ça. Il est rappelé, il y a encore quelques grands joueurs, hein, comme Rudi Krol, le capitaine, le défenseur. Dans les buts, il y a Hans van Breukelen, qui est plutôt au début de sa carrière, qui sera le grand gardien du PSV Eindhoven et des Pays-Bas, qui seront champions d'Europe en 88. Et donc, les Bleus jouent à qui tout double. Les deux dernières semaines avant ce match au Parc, Michel Hidalgo est un peu victime avant l'heure du syndrome que connaîtra Aimé Jacquet, c'est-à-dire il est très très critiqué. Tout le monde est d'accord pour dire que si les Bleus ne passent pas, Hidalgo joue probablement son dernier match ou son avant-dernier match avec celui contre Chypre sur le banc de l'équipe de France. Donc il y a une énorme pression pour cette génération. Et il y a 0-0 à la mi-temps, on est en début de deuxième période. Un coup franc pour les Bleus sur un contre. Il est plein axe. Michel Platini va le frapper dans le mur et il va être à retirer pour une main néerlandaise. Donc cette fois, il va être un petit peu plus sur le côté, ce qui ne va pas faire de mal à Platini. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait déjà eu deux coups francs de Platini dans ce match en très bonne position. Et il avait déjà une grosse réputation à ce moment-là quant à sa capacité à être efficace et décisif sur ce type de situation. Mais il n'est pas très en réussite ce soir-là. Les Pays-Bas, on est loin du football total. Ils jouent derrière, ils jouent 0-0 très clairement. Et c'est un match qui est très tendu, très crispant. Et donc là, Platini, 53e minute, cette fois, il va enrouler sa frappe, il va la brosser comme il sait le faire, il va contourner le mur. Et si vous revoyez les images avec les commentaires du direct, ils sont très faciles à trouver. C'est évidemment le duo Thierry Roland-Jean-Michel Larqué. Jean-Michel Larqué qui est plutôt au début hein, de ses premiers pas. Alors, je ne sais plus quand est-ce qu'il était arrivé comme consultant, mais ça ne fait pas très longtemps. Et juste avant qu'il frappe, il dit « Allez Michel !» Et au moment où Platini frappe, je crois que même qu'il commence à le dire avant que la balle rentre, parce qu'il a tout de suite compris qu'il allait y avoir but, il dit « Oui Michel !» et après on va entendre Thierry Roland « Oui Michel, oui Michel !» Et il y a cette image très très forte de Michel Platini qui se met à courir, qui se met à genoux au milieu du terrain et qui brandit les poings comme ça en regardant vers le ciel, je crois. Je l'ai rarement vu comme ça par la suite, même sur des buts très très importants.
Et donc, c'est une image marquante, ça. Ça, c'est une vraie image.
Ah oui, c'est une image iconique, même, je pense, de la carrière de Platini. Et donc, quand on a demandé à Platini, je crois que c'était quand il était sélectionneur de l'équipe de France, d'ailleurs, au début des années 90, quel était le but pour lui qui avait le plus compté dans tous ceux qu'il avait mis, il avait choisi celui-là, plus que le but en finale de l'Euro 84, un autre coup franc, au même endroit, d'ailleurs, le même coup franc sur le même but. Avec la fameuse Arconada ou celui contre le Portugal aussi à l'Euro 84 ou tous ceux qu'il a pu mettre pour qualifier les Bleus pour la Coupe du Monde 86, etc. etc. ou celui contre le Brésil à Guadalajara le jour de son 31e anniversaire. Il avait choisi celui-là parce qu'il dit c'est celui qui déclenche tout et il dit si je ne le mets pas celui-là, ben, peut-être qu'il n'y a pas tout le reste. Et je pense qu'il n'y avait peut-être qu'un coup franc de Platini pour débloquer ce match contre les Pays-Bas et permettre aux Bleus d'Hidalgo de se qualifier pour la Coupe du Monde 82 où on sait qu'ils vont aller en demi-finale.
La dramaturgie.
Voilà, du monde où ils ont un petit peu de réussite parce qu'ils ne font pas un grand premier tour. Derrière, ils se retrouvent dans une poule avec l'Irlande du Nord et l'Autriche, ce qui n'était pas une mauvaise affaire. Et puis après, il y aura évidemment cette fameuse demi-finale. Alors, ils auraient organisé, quoi qu'il arrive, l'Euro 84, mais j'ai du mal à imaginer qu'ils auraient pu gagner l'Euro 84 s'il n'y avait pas eu l'expérience, le vécu de 82 qui a beaucoup servi deux ans plus tard lors de l'Euro en France. Donc, pour toutes ces raisons, c'est sans doute le but le plus important oui, de la carrière de Platini en bleu. Et moi, à titre plus personnel, c'est mon premier souvenir de match de l'équipe de France. C'est la première image que j'ai vraiment des Bleus et c'est ce but de Platini. Donc, il m'a aussi beaucoup marqué, moi.
Ce but, cette image, effectivement, de Platini et genou à terre. Quand on découvre un petit peu l'équipe de France, c'est vrai qu'on a des images fortes qui apparaissent et celle-ci en est une. Pour la petite histoire, l'équipe de France s'imposera 2-0 hein, dans ce match face aux Pays-Bas avec un but de Didier Six.
Didier Six, ouais. Et un dernier mot quand même, Hidalgo avait tenté un coup de poker phénoménal. Il a tenté un 4-3-3. Pas de milieu défensif. Il a mis au milieu Platini, Gires et Gengini et trois attaquants avec Rocheteau, Six et je crois que c'était Bernard Lacombe, je ne vais pas dire de bêtises. Mais... Donc c'était une équipe ultra offensive. Il a pris vraiment un risque gigantesque ce soir-là. C'était un quitte ou double total qui aurait pu se terminer en débâcle pour lui notamment, pour Hidalgo et qui finalement a été le point de départ de cette génération absolument fabuleuse qui en deux Coupes du Monde et un Euro va remettre l'équipe de France sur le devant de la scène et lui permettre de décrocher son premier titre. Et je pense aussi que s'il y a eu 98 et tout ce qui a suivi derrière, c'est aussi parce que la génération Platini a appris au football français à gagner.
Et ce que dit Laurent est très vrai sur le trou de l'équipe de France, c'est-à-dire que s'il rate cette compète-là, il n'y a pas l'expérience de 82. Il faut rappeler qu'entre, tu l'as dit, entre 66 et 78, il n'y a rien. C'est 12 ans de trou et à l'échelle de l'histoire de l'équipe de France, c'est unique. Et c'est ce que dira aussi Jacquet avant la Coupe du Monde. Enfin, c'est ce que pense Jacquet aussi de l'importance d'avoir joué l'Euro 96 pour avoir gagné 98. Parce qu'en gros, c'est en deux phases. C'est-à-dire que si tu ne joues pas l'Euro 96, tu as zéro expérience, hormis ceux quelques-uns qui ont joué l'Euro 92. Et cette équipe de France-là, de Platini, avait évidemment besoin de jouer la Coupe du Monde pour avoir ce sel et de savoir comment se projeter dans une grande compétition. Donc, en effet, sans ce but-là, il n'y a sûrement pas, enfin, on ne peut pas refaire l'histoire, mais de victoire à l'Euro 84, a priori.
C'est génial de savoir ces petites histoires parce que finalement, ça joue. Les plus jeunes générations vont avoir l'impression que l'équipe de France, c'est naturel de les voir dans des grandes compétitions, etc. On pense qu'à cette époque-là, voilà, ça joue sur un but. Et finalement, une histoire derrière qui se déroule avec le France-Allemagne 82, l'Euro 84, etc., ça aurait pu tout ça ne pas exister.
Si on fragile, c'est fragile, un destin.
Ouais, c'est fragile, c'est vrai. Mais on va en parler tout de suite parce que 12 ans plus tard, on va parler du match et du but qu'a choisi Maxime. Là, pour le coup, c'est un mauvais souvenir pour l'équipe de France. Un but, comme on dit toujours, le but de Kostadinov, ça suffit. Ça replace le dans son contexte. Maxime, on est en 93, c'est les qualifications pour la Coupe du Monde 94.
Alors ouais, c'est encore un match en novembre. On a novembre 80, novembre 93, 17 novembre 93. Laurent était au stade, m'a confié qu'il faisait très, 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 très froid ce soir-là, que l'ambiance était évidemment particulière. C'est un peu le match de la trouille, tout simplement. Déjà, je vais recontextualiser pourquoi déjà ce but est marquant, parce que moi, personnellement, première fois que j'ai vu l'équipe de France jouer un match de Coupe du Monde en direct, c'est en juin 98. Donc, j'ai attendu quasiment 20 ans pour voir l'équipe de France. Et ça dit combien c'est fragile et combien c'est précieux de voir une équipe jouer une Coupe du Monde. Moi, j'ai connu les vaches maigres et cette année 93, elle est particulière pour le football français parce que c'est celle de la première victoire en Ligue des Champions, la seule victoire en Ligue des Champions d'un club français, l'Olympique de Marseille. Et on se dit, bah, finalement, ça va rouler, l'équipe de France va jouer la Coupe du Monde. Gérard Houllier, sélectionneur, début de qualif qui n'est pas terrible, une défaite en Bulgarie déjà 2-0. Et finalement, l'équipe commence à reprendre un peu le fil de son histoire, jusqu'on va dire, il y a un premier petit accro qui passe aujourd'hui inaperçu, c'est en Suède, en août. L'équipe de France mène 1-0 à 3 minutes de la fin, se fait rattraper un partout, un but de Martin Dahlin. C'est un premier petit accro. Derrière, il y a une victoire en Finlande en septembre, 2-0. Et là, ils se retrouvent avec deux matchs à jouer et une seule victoire à prendre. Israël en octobre 93 et donc la Bulgarie. Tu as parlé de Chypre tout à l'heure. Israël, c'est pareil. À l'époque, Israël, aujourd'hui, c'est une équipe, on va dire, moyenne, on va dire, dans le concert européen. À l'époque, Israël, c'est une équipe vraiment, vraiment nulle. Il y a une victoire 4-0 à l'aller. Honnêtement, ça ne doit pas faire un pli, normalement. L'équipe de France doit battre Israël et se qualifier pour la Coupe du Monde américaine en octobre. À manque de peau, l'équipe de France mène 2-1, finit par se faire rattraper. C'est déjà une défaite complètement surréaliste. 3-2, défaite au Parc. L'équipe de France, donc, joue la Bulgarie le dernier match, et là, il ne lui faut plus qu'un point. Ce point, elle va le tenir pendant exactement 90 minutes. C'est un match, comme je l'ai dit, un match de la trouille, parce que l'équipe de France ne sait pas trop comment faire face à cette équipe de Bulgarie. Elle va mener 1-0, un but de Cantona, et dans la foulée, Kostadinov égalise sur corner. À la fin d'un premier temps, il y a un partout. À la fin de la deuxième mi-temps, il y a aussi encore un partout. L'équipe de France obtient, vous connaissez sans doute l'image, obtient un coup franc côté droit de la surface de réparation. Il est joué à deux. Et là, Ginola, qui vient de rentrer en jeu, j'en reparlerai après, veut centrer parce qu'il veut faire peut-être pas le héros, mais on sent qu'il a besoin de jouer. Et il l'avait revendiqué avant le match. Il ne comprenait pas pourquoi il n'était pas titulaire. Il est rentré en cours de jeu. Il arrive, il est côté droit, il centre. Ça va jouer en 16 secondes. C'est 44 minutes, 43 secondes. Le centre de Ginola est trop long. Il passe de l'autre côté du terrain. Récupération, je crois que c'est Kremenyev qui a le ballon. Ça va remonter en 16 secondes. Une ouverture de Penev sur Kostadinov qui est à la lutte avec Laurent Blanc. Il est vraiment excentré côté droit. Et là, il va balancer la frappe du désespoir absolu. Frappe surpuissante sous la barre. Lama a beau faire ce qu'il veut, il ne peut pas. On voit aussi l'image est marquante de Laurent Blanc avec ses grands compas qui essayent de tacler vraiment en dernier moment. Et là, le ballon passe sous la barre. Vraiment, vous regardez le chrono à la télé, c'est presque caricatural. Dans un film, on n'oserait peut-être pas faire ça. Il y a marqué 45 minutes. C'est terminé. Et là, tu parlais de la force aussi. Ça va être un peu le fil rouge Roland Larquet. Moi, j'étais à la télé à l'époque, j'étais gamin. Et là, tout de suite, le Roland Larquet, aïe, 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 c'est fini. On voit l'image sur le côté de Jacquet qui se tient les mains, qui se passe les mains dans les cheveux, qui regarde en l'air. C'est vraiment tout le monde qui est tombé sur la tête des Bleus à ce moment-là. Et pourquoi ce but est marquant? Parce que voilà, il y a la dramaturgie. Moi, je me souviens, c'est le seul but qui m'a fait éteindre la télé directement. C'est-à-dire que j'étais sans voix. il n'y avait plus rien. C'est-à-dire, j'avais tout était éteint. Je suis allé me coucher directement.
Ah, tu avais cours de maths à 8h le lendemain.
Ouais, et j'avais aussi cours. Mais vraiment, je me suis retrouvé sans voix. C'est au-delà de la déception. C'était inexplicable. Il va marquer ce but-là. Je me souviens, en plus, il n'y a pas d'arrêt de jeu derrière quasiment. Ils engagent, ça siffle. Et un truc très marquant que j'ai revu récemment, qui ne m'avait pas marqué à l'époque, c'est que même la réalisation de TF1 se trompe. Elle marque France 2, Bulgarie 1. Tellement c'est surréaliste, tout le monde perd les pédales à ce moment-là. Puis évidemment, la grande histoire, c'est ce qui va se passer derrière, parce que ce but, évidemment, un échec. L'équipe de France rate une deuxième Coupe du monde de suite après avoir raté 90. L'équipe de France ne va pas aux États-Unis. Coupe du monde, on va le rappeler, la Suède et la Bulgarie iront en demi-finale. Donc, c'est une Coupe du monde assez ouverte. On peut imaginer que l'équipe de France avait aussi un coup à jouer, parce que quand vous regardez l'équipe qui joue ce soir-là contre la Bulgarie, il n'y a qu'un joueur qui ne reviendra jamais en équipe de France, c'est Franck Sauzet. Le reste va revenir et une partie d'entre eux va être championne du monde. Il y a De Sailly qui joue ses premiers matchs. Il y a déjà Didier Deschamps. Il y a Papin Cantona en mondial. Il y a Blanc qui, lui, va vouloir se mettre de côté, mais va revenir. Donc, il y a quand même une équipe.
Manu Petit,
ouais. C'est une équipe qui, honnêtement, vous la mettez en 94, aurait tenu la route. Mais il y a ce blackout ce soir-là, enfin ce blackout d'un mois, parce qu'il ne faut pas oublier Israël. Et puis, évidemment, ça va être les abysses du football français. Houillet qui va s'en prendre à David Ginola avec l'exocet, avec le crime contre l'équipe. Et là, il faut rappeler quand même que Houillet ne parle pas seulement de l'action de Ginola, il parle de ce qui s'est passé avant, de ses états d'âme qu'il a étalé dans la presse à Clairefontaine en disant « moi, je ne comprends pas ce qu'il faut que je fasse pour être titulaire ». Il est dans l'ombre de Papin et Cantona. Il y a la guéguerre entre les Parisiens et les Marseillais à l'époque qui va finir par plomber le truc. Houillet se fait virer. Fournet Fayard, qui est à l'époque président de la fédération, part aussi. Et on est vraiment dans un moment où plus grand monde veut de l'équipe de France. Il y a Robert Herbin, Gilbert Grèce, je crois, qui sont intéressés par le poste. Et que fait la Fédé avec, on va dire, une tête de Fédé qui est Jacques Georges, qui est intérimaire, et dit on va essayer mes jaquets. Voilà. C'est quasiment le seul recours. On va l'essayer sur deux matchs, on va voir ce que ça va donner. L'équipe de France gagnera en Italie 1-0, l'Italie qui va être vice-championne du monde. L'équipe de France battra le Chili, je crois que c'est à Lyon 3-1. Et puis après, il y a la Kirin Cup, ça se passe bien. On dit, bon, écoutez, tant qu'à faire, on va essayer Jacquet. Et puis l'histoire s'écrit à partir de ça. Et c'est fantastique, comme quoi on parle de la fragilité d'un destin, il est là. C'est-à-dire que Jacquet aussi, quand il y a ce but Kostadinov, lui, il est adjoint de Gérard Houillet, il se dit, c'est terminé pour moi. C'est logique, je suis dans le staff, je vais dégager. Et non, on essaye Aimé Jacquet. Puis l'histoire, ça va jusqu'au 12 juillet 1998, une construction d'équipe et un titre mondial. C'est presque inespéré, mais ça part de ça. Moi, j'ai toujours eu le grand regret de ne pas avoir l'équipe de France à la Coupe du Monde 94, qui est à mes yeux ma préférée, parce que j'avais adoré tout ce qui s'était passé là-bas.
Ah oh, c'est pas 90.
Ah oui, si, il y a 90 que j'aime bien, mais je... non. Mais 94,
c'est la plus belle quand même, 90, Maxime. Tu me l'as toujours dit.
Là, il faudrait refaire un truc. Mais 94, j'adore parce que voilà, il y a du jeu, c'est fantastique. Il manque juste l'équipe de France. C'était un mal pour un bien. Ça valait le coup finalement d'attendre 4 ans supplémentaires et d'arriver à 98 et la victoire évidemment des Bleus en Coupe du Monde.
Oui, c'est difficile à dire. Est-ce que les Bleus n'auraient pas gagné 98 s'ils n'avaient pas participé à 94?
Et peut-être qu'ils auraient gagné 94.
Et peut-être également.
Mais oui, mais je pense que la construction n'est pas la même, parce que si tu joues 94, que tu fais une bonne Coupe du Monde, Zidane arrive. Peut-être que Zidane est d'ailleurs dans la liste pour la Coupe du Monde parce qu'il arrive en août 94. Mais est-ce que à un moment dans la construction de l'équipe, il prend les clés avec Djorkaeff? Il faut rappeler que Jacquet va donner les clés à Djorkaeff et à Zidane. Parce qu'il voit quelque chose qui est bien, parce que Cantona est suspendu en 94, en 95, après son head kick, et qu'il se dit, finalement, je n'ai pas besoin d'un créateur, j'ai besoin d'un avant-centre. Et Cantona, à ce moment-là, lui, se voit plus dans un créateur. Est-ce que tu dégages plus facilement Cantona dans ces conditions-là? Je ne suis pas sûr. On ne fera pas l'histoire, mais peut-être que oui, on aurait peut-être gagné 94, et que 98, on aurait fait un quart de finale, je ne sais pas.
Ah, ces histoires d'équipe de France, en tout cas, 98, ouais. Vas-y Laurent.
Ouais, non, une ou deux choses quand même. Quand Maxime dit que c'était invraisemblable, c'est vrai que tout est invraisemblable dans ces deux matchs. Ils mènent contre Israël, ils mènent contre la Bulgarie, ils arrivent à perdre ces deux matchs. Mais il y avait quand même un verre dans le fruit depuis le début et c'était vraiment, je pense, cette guéguerre. On est au paroxysme à cette période-là de la guéguerre entre l'OM et le PSG qui compose, pendant pratiquement toutes les qualifs, 80 à 90% du 11 de départ de Gérard Houillet. Et cette campagne de qualifs, il l'avait remise sur les rails, mais elle était très, très mal partie. À tel point que dès le début, on a eu peur que ça tourne à la catastrophe. Et il y avait eu le fameux France-Autriche au Parc des Princes avec la phrase de Jean-Luc Sassus qui a été rapportée. Je crois que c'était Alain Roche ou Laurent Fournier qui dit ça, je ne sais plus. Où après le coup d'envoi, les Marseillais commencent à voilà, Boli pour Casoni, pour machin, et Sassus qui sort, un de ses coéquipiers parisiens, laisse tomber, les Marseillais jouent entre eux. Quand on en arrive là, en équipe de France, c'est qu'il y a un problème. Alors, c'est vrai qu'ils auraient largement dû se qualifier, mais quelque part, et avec l'affaire Ginola, qui a été la cerise sur ce gâteau-là, l'ambiance était pourrie dès le début. Et puis, une petite anecdote, le soir de France-Israël, la France reçoit Israël, la Suède reçoit la Finlande, et si les deux gagnent à domicile, c'est fini, les deux sont qualifiés pour la Coupe du Monde et la Bulgarie est éliminée. La Suède va gagner contre la Finlande, évidemment la France ne va pas gagner. Et ce soir-là, la Bulgarie jouait également à domicile à Sofia à 18h. Ils gagnent 4-1. Et derrière, Kostadinov, Stoïtchkov et Penev vont aller manger dans un restaurant à Sofia. Et ce n'est pas la fête parce que même s'ils ont gagné, ils sont persuadés que pour eux c'est terminé, que la Bulgarie a raté le coche. Et c'est un serveur qui, au moment du dessert, va venir leur annoncer qu'Israël a gagné au Parc des Princes. Ils vont croire à une blague jusqu'à ce qu'ils aient la confirmation de l'info. Et ce soir-là, Stoïtchkov va promettre à ses coéquipiers, leur dire, on va gagner au Parc et on fera une grande Coupe du Monde. Voilà. Et ce 17 novembre 1993, c'est probablement la soirée la plus incroyable de l'histoire des qualifications pour une Coupe du Monde ou pour un Euro. Je vous invite à vous replonger là-dedans. France-Bulgarie, c'est vraiment un tout petit truc par rapport au nombre de matchs décisifs qu'il y a eu et des histoires complètement invraisemblables. C'est vraiment une soirée hallucinante.
Et pour confirmer ce que tu dis sur PSG Marseille, ce soir-là, il y a 13 joueurs qui ont foulé la pelouse et il n'y en a que 3 qui n'ont pas joué dans les 6 derniers mois à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, pardon, ou le Paris Saint-Germain. Donc c'est vraiment l'ossature. Et dernière anecdote qu'on avait découvert 20 ans après, alors ça ressemble à une légende, mais a priori ça a été confirmé par les principaux intéressés, c'est que Kostadinov n'avait pas de visa pour entrer en France. Et que, en gros, ça s'était un peu arrangé avec Mirailov qui avait joué à Mulhouse. Ils avaient trouvé une manière de passer d'Allemagne à France parce qu'ils faisaient leur stage préparatoire. Donc, si les douaniers avaient fait leur boulot, on serait allé au mondial.
Il l'a amené en voiture jusqu'au Parc des Princes.
Voilà.
On va se plonger 4-5 ans plus tard, parce qu'on parlait de 93-94. Là, pour le coup, c'est une fin heureuse, mais ça n'a pas été si simple. Tout le parcours d'équipe de France lors de la Coupe du Monde à domicile n'a pas été linéaire. Et il a fallu notamment ce but en huitième de finale que tu as choisi de défendre, Martin, ce but de Laurent Blanc dans la prolongation.
Oui, parce que pour moi, c'est le but le plus marquant du tournoi, le plus important de l'histoire des Bleus. L'équipe de France sort d'un premier tour réussi, mais bon, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Danemark, tout se passe très bien. Et t'as 8e de finale face au Paraguay. Alors, le Paraguay, c'est déjà un invité surprise parce que tu t'attends à retrouver soit Nigeria, soit l'Espagne. Mais l'Espagne fait match nul contre le Paraguay. Et le Paraguay tape le Nigeria lors de la dernière journée. Et donc, on a un huitième de finale un peu inattendu face au Paraguay. Évidemment, ce match-là, l'équipe de France à domicile n'a pas le droit de le perdre. Pour moi, c'est presque le match pivot de cette Coupe du Monde pour l'équipe de France. Évidemment, si l'équipe de France ne va pas au bout, ce serait une déception. Mais enfin, perdre contre le Paraguay en huitième de finale, ça ferait vraiment tâche. Le Paraguay ne pèse pas grand-chose à cette époque-là. Si tu perds en quart de finale contre l'Italie, disons que, évidemment, ça reste une déception, mais c'est un peu plus acceptable, comme si tu perds dans le dernier carré. Là, il y a une énorme pression donc, autour de cette équipe de France. C'est une après-midi où il fait très très chaud. C'est à Bollaert, donc dans le stade du RC Lens. Il fait très très chaud. Et face à l'équipe de France, donc il y a le Paraguay, mais il y a surtout Chilavert. Chilavert, c'est qui? Pour les plus jeunes qui ne le connaissent pas, c'est la star de cette équipe du Paraguay. C'est le meilleur gardien, en tout cas, c'est le gardien FIFA. Alors, est-ce que ça en fait lui le meilleur gardien? Mais en tout cas, c'est le meilleur gardien FIFA en 97 et en 98, en 95 aussi, me semble-t-il. Alors, c'est un gardien qui marque des buts sur coup franc, mais pas que. C'est un gardien qui en arrête beaucoup aussi. Et donc, tout l'avant-match est polarisé autour, justement, et sur la personne de Chilavert. Évidemment, le match va tourner lui aussi autour de Chilavert et plus le match va avancer, plus Chilavert va prendre de la place dans les buts de l'équipe du Paraguay. La physionomie du match est finalement assez simple, c'est-à-dire qu'on a une équipe de France qui domine, pas outrageusement, parce que c'est pas vraiment, c'est pas des vagues continues sur le but de Chilavert, mais il y a quand même beaucoup d'occasions. Il y a notamment ce poteau de Thierry Henry. Ce qu'il faut rappeler aussi, et ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'équipe de France est évidemment privée de Zinedine Zidane, qui a pris un carton rouge contre l'Arabie Saoudite. Donc Zidane purge son deuxième match de suspension face au Paraguay, mais c'est une domination assez nette de l'équipe de France. Il y a une tête de Desailly qui est repoussée par Chilavert. Il y a donc cette fameuse occasion de Thierry Henry qui échoue sur le poteau. Et si vous voulez, plus l'après-midi, moi j'ai ce souvenir-là, plus on avance dans l'après-midi, plus ça devient étouffant. Et plus on se dit, il faudrait commencer à trouver la faille, sinon ça va être très, très, très compliqué face à cette équipe du Paraguay. Donc quelques occasions, de plus en plus d'occasions pour l'équipe de France. Chilavert qui arrête tout et on arrive aux prolongations. Et le but de cette équipe du Paraguay avant le match, c'est évidemment d'amener jusqu'au tir au but cette équipe de France, parce que Chilavert excelle dans cet exercice-là. Et évidemment, comme il prend confiance au fil du match, on se dit que si on arrive à la séance de tir au but, ça va être très compliqué pour l'équipe de France. Il y a d'ailleurs Didier Deschamps qui avouera sur les antennes de Radio France et face à Jacques Bondroux, je crois que c'est 20 ans plus tard, donc en 2018, qui ne sentent pas du tout l'affaire. Il dit qu'évidemment, Fabien Barthez était honorable dans l'exercice des tirs au but, mais de se retrouver face à Chilavert qui avait sorti un match monstrueux, ça aurait été plutôt indélicat pour cette équipe de France. Donc le match avance, et puis il y a Laurent Blanc qui décide. Laurent Blanc, on sait, hein, qui a toujours marqué beaucoup de buts dans sa carrière de joueur, qui n'est pas qu'un défenseur central, qui a joué milieu de terrain. Et Laurent Blanc, il décide, au fil du match, et notamment en prolongation, d'apporter le surnombre. Et en prolongation, finalement, il décide de quasiment rester dans la surface adverse, au grand dam de Marcel Desailly, qui derrière lui dit « Mais Lolo, tu peux pas faire ça, il faut que tu reviennes ». Desailly est vert de rage, mais Laurent Blanc décide de rester et d'apporter surnombre et de faire la différence. Donc, on avance au fil du match, on avance dans la prolongation jusqu'à 114e minute. Donc, on a 6 minutes de la séance des tirs au but. Je ne sais pas si vous imaginez, avec un Bollard en fusion, 114e minute, Thierry Henry est sorti blessé. Donc, en plus, tu dis de plus en plus d'éléments contre cette équipe de France. Pires est rentré. Pires centre sur la tête de David Trezeguet, qui fait une petite remise à Laurent Blanc et donc qui délivre Bollard, qui délivre évidemment l'équipe de France. But en or, donc la France est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. C'est le premier but en or de l'histoire de la compétition. Et pour moi, ça marque un tournant parce qu'effectivement, eh ben voilà, tu te retrouves face à l'Italie en quart de finale. Je ne vous explique pas la descente aux enfers de l'équipe de France, comment Jacquet et Zidane auraient été jetés en pâture si l'équipe de France avait été éliminée par Paraguay en huitième de finale, parce que jusque-là, la Coupe du Monde de Zidane se résume à pas grand-chose, si ce n'est cet essuie les crampons sur la cuisse d'un joueur saoudien. Donc, ce match, pour moi, ce but marque le pivot dans la campagne de l'équipe de France à la Coupe du Monde 98. C'est un tournant. Alors, je dirais, ce match, il est un peu à l'image de cette équipe de France, c'est-à-dire que voilà, c'est solide derrière, mais c'est laborieux et c'est pas flamboyant. Mais malgré tout, ça passe par un trou de souris. On s'évite Chilavert au tir au but, on se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 98. Et surtout, c'est un soulagement immense. Moi, c'est cette image qui me reste. Moi, j'étais gamin face à ma télé. C'est le commentaire de Gilardi, la lumière est venue de Blanc. La lumière est aussi venue de Trezeguet, hein, parce que la remise de David Trezeguet quand on est avançante, cette petite passe décisive, elle est absolument exceptionnelle. Mais voilà, c'est surtout un immense soulagement face à cette équipe du Paraguay qui, a priori, ne valait pas grand-chose, mais surtout face à Chilavert, qui en avait fait cauchemarder plus d'un avant le match et pendant le match, je vous explique pas. Donc voilà.
C'est un des premiers tournants, effectivement, parce que c'est vrai que cette équipe de France sur la route de 98, il y a le Paraguay et il y a derrière l'île de la Coupe, la séance de tir au but de l'Italie, il y a les buts de Thuram en demi. Ah. Tout ça, c'est une construction et on a l'impression qu'à chaque tour, ça peut s'arrêter. C'est pile ou face presque.
Sauf en finale.
C'est la Coupe du Monde de l'arrache. Hein, de toute façon, c'est le paradoxe de 2000, on en parlera après, c'est que c'est des scores de 1, 2, 1, 2, 1. Mais sauf que tu sens que cette équipe a quelque chose en plus. 98, c'est de l'arrache, de l'arrache. Et pour revenir sur le match, il y a une image qui m'a marqué, je me souviens, c'est Chilavert qui. L'image du match aussi, c'est Chilavert qui relève tous ses guerriers à la fin. Tous les mecs sont effondrés et il va les relever. C'est vraiment le mal dominant. Qui attendait que ça, et comme tu l'as dit, il attendait vraiment les tirs au but, c'était et on tournait autour de ça. Heureusement, on n'est pas anglais, on n'a pas l'habitude de perdre à chaque fois sur but, mais tu sentais qu'il y avait ce côté, dire ils vont nous amener là où ils voulaient. Et ça va être problématique. Et pour revenir sur Laurent Blanc, alors il y a De Saï qui n'est pas très content, mais il y a surtout Jacquet qui demande à Laurent Blanc de ne pas monter. Voilà. Alors que Laurent Blanc, comme tu l'as dit, il a été mis au terrain. Jacquet est l'homme qui a fait reculer Laurent Blanc contre son gré à Montpellier en début des années 90. Et pourtant, à ce moment-là, il lui dit non, non, il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller. Et comme tu l'as dit, Laurent Blanc, comme il le fera souvent et régulièrement, c'est plus qu'un défenseur central. Et le type, quand tu es mené au score, tu le mets dans la surface parce qu'il est bon avec les pieds, il est bon de la tête, il peut apporter tout. Et là, c'est l'exemple, vraiment, sûrement son but le plus important dans toute sa carrière, mais pas le seul là-dessus.
Je pense que l'équipe de France doit être la seule équipe dans l'histoire de la Coupe du Monde à avoir gagné la Coupe du Monde sans un but d'un attaquant des huitièmes à la finale. Je pense que c'est un cas de figure complètement inédit. Mais ils avaient vraiment la trouille au ventre ce jour-là. Parce que, effectivement, comme Martin l'a dit, on n'a pas le droit, entre guillemets, de perdre déjà en huitième. Un pays organisateur qui perd en huitième, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a eu les États-Unis. Bon, l'Afrique du Sud, c'est un petit peu à part. Mais globalement, on attend, surtout quand tu es une nation comme la France, qui avait quand même une certaine place déjà dans le foot, dans le concert international, qui est allé plus loin. Et après, perdre au tir au but contre l'Italie en quart, je n'ai aucun doute sur le fait que Jacquet aurait été descendu, mais disons que c'était un destin peut-être un petit peu plus acceptable que de perdre contre le Paraguay un tour plus tôt. Et je pense qu'ils ont retrouvé un petit peu la même chose en demi, c'est-à-dire que c'est peut-être contre l'Italie qu'ils ont eu le... On ressentait, c'était tendu comme match, mais on ne ressentait pas cette même trouille que ce qu'on avait pu ressentir contre le Paraguay ou contre la Croatie, parce que c'était pareil. Tout le monde attendait une demi-finale contre l'Allemagne, on parlait que de ça. Et finalement, on s'est retrouvé avec la Croatie, dont c'était la première compétition internationale, la première Coupe du Monde. Bah, c'était pareil, tu ne peux pas perdre chez toi contre la Croatie, même si c'était une formidable équipe. Et là, on a retrouvé cette équipe morte de trouille et le fameux discours de Jacquet qui est, pour moi, vraiment, l'image que je retiens de Jacquet de cette Coupe du Monde, où il a ce discours à la mi-temps, où il leur dit « Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Vous avez peur de perdre ?» Il dit « Vous allez perdre, hein, vous inquiétez pas, vous y allez tout droit. » Et il y avait le but de Schuker, et derrière, ce qui se passe avec Thuram, pour moi, c'est vraiment le moment le plus invraisemblable, peut-être, de l'histoire de l'équipe de France. Parce que Laurent Blanc marque un but, comme vous l'avez dit, c'était un 10 de formation, c'est un joueur très offensif, il avait beaucoup marqué de buts. Alors c'est vrai, souvent plus sur coup de pied arrêté en équipe de France qu'avec son jeu de tête, que dans le jeu comme ça. Mais disons que Laurent Blanc monte comme ça à l'instinct dans une fin de prolongation, ça avait un côté moins extravagant que ce doublé d'Ilian Thuram. Et l'équipe de France a toujours eu besoin, pour gagner une grande compétition, d'un but comme ça, celui de Pavard, le doublé de Domergue et Michel Platini. Quand on lui demandait pourquoi lui, il n'avait pas gagné la Coupe du Monde, il disait « Moi, je n'ai pas William Ayache qui m'a mis un doublé en demi-finale.
» Et pour revenir à ce que tu dis début de Laurent Blanc a mis 16 buts en équipe de France, c'est autant que Ribéry, par exemple, pour vous donner un peu une idée quand même de l'apport offensif du bonhomme.
Ce qui est dingue avec le but de Laurent Blanc, c'est ce que tu disais très bien, Martin, tout à l'heure, c'est vraiment ce soulagement, cette chape de plomb qui tout d'un coup s'enlève. Moi, je m'en souviens très bien. On avait et cette peur, c'est peut-être la première fois où j'avais l'impression de jouer un match contre un homme, c'est-à-dire une équipe contre vraiment un homme. C'est ce que tu disais, l'importance de Chilavert, cette peur de Chilavert. Et justement, on voyait, bah, on y arrivait. C'était stressant à cause de ça, à cause de cet homme. C'est vraiment ça qui a rendu ce match, je trouve, particulier pour moi. Ce que tu as très bien dit tout à l'heure, Martin, c'est vraiment ce soulagement d'enfin trouver la faille, de réussir à battre Chilavert. C'est ça, moi, qui m'a vraiment marqué sur ce match.
Pour la petite histoire, personnellement, je remercierai toujours Laurent Blanc d'avoir marqué parce que j'avais des places pour Nigeria, Danemark au Stade de France ce soir et ça devenait très, très tendu. S'il y avait des tirs au but, je pense que je loupais le match.
Et les huitièmes sont souvent un tournant dans les campagnes des Bleus à la Coupe du Monde. Alors là, le huitième contre le Paraguay, le huitième contre l'Espagne, évidemment, en 2006. Je parle des campagnes victorieuses, ou enfin en tout cas quand tu vas en finale.
Et souvent, oui, de toute façon.
Voilà, et évidemment France-Argentine avec le but de Pavard.
Peux élargir à l'Euro aussi. Hein.
Ouais. Ouais, puis tu peux élargir bien au-delà de l'équipe de France. Ouais. C'est-à-dire que les huitièmes, c'est quand même souvent là où les masques tombent et où on a très souvent des équipes qui ont été très brillantes En poule et qui se casse la figure, ou inversement, comme les Bleus en 2006, mais des exemples comme ça, l'Argentine en 90, hein, qui est catastrophique au premier tour et qui va sortir le Brésil en huitième et aller jusqu'en finale derrière. Donc, oui, bah, en même temps, c'est un petit peu normal puisque c'est le premier match à élimination directe et c'est incomparable avec une phase de poule, ça c'est sûr.
Tu prends l'équipe de Deschamps, France-R 2016, c'est là où tu découvres l'équipe qu'il va y avoir. Et puis tu prends France-Suisse 2021, où là ça s'arrête parce que finalement elle n'a pas de visage cette équipe.
C'est toujours la fragilité de ses destins, c'est ça que je dis.
C'est ça. On doit faire un podcast sur la fragilité du destin.
Sur le destin.
Bah, on peut en parler de fragilité pour le dernier but que Glenn a choisi de défendre. S'il n'y avait pas eu le but de Wilder de la 94e,
ah oui.
Il n'y aurait pas eu le but de Trezeguet le but en or, hein, Trezeguet qui apporte le titre à l'Euro 2000. Glenn, c'est le but que tu as choisi de défendre.
Oui, exactement. Alors, tu parlais de fragilité. C'est marrant parce que, contrairement à la Coupe du Monde 98, comme Martin en parlait tout de suite, à l'Euro 2000, on a l'impression d'une France justement sûre de sa force, dominante, qui maîtrise son sujet. Alors évidemment, il y a beaucoup de victoires 2-1, Maxime le disait, contre l'Espagne en quart, contre le Portugal en demi, avec une prolongation stressante et le pénalty de Zidane. Et ce qui rend, pour moi, ce qui fait que ce but de Trezeguet est marquant, évidemment, il y a le scénario de cette finale à Rotterdam. On s'en souvient, évidemment il y a le but de Marco Del Vecchio à la 55e qui fait que l'Italie est en position de force et idéalement placée pour aller gagner ce titre, alors que tout le monde pensait que la France allait faire ce doublé. On est au bout du temps additionnel, la France n'y arrive toujours pas, et comme tu viens de le dire, Adri, il y a ce but de Sylvain Wiltord qui vient de nulle part déjà, avec déjà d'ailleurs une remise de David Trezeguet sur un dégagement de Fabien Barthez. On le sait, il y a les Italiens qui étaient prêts à exploser sur leur banc. Après, il y a l'image de Thierry Henry qui passe sur le côté, qui leur fait non, non, non. Déjà, il y a ce moment-là qui fait que ces 15 minutes sont mémorables parce que c'est déjà un premier soulagement de réussir à égaliser et d'arracher cette prolongation. Mais après, si j'ai choisi ce but de Trezeguet plus que le but de Sylvain Wiltord, qui a déjà été pour moi un souvenir mémorable, c'est parce que pour moi, tout est superbe dans ce but de Trezeguet. Il y a vraiment tout. Le scénario, le momentum, parce qu'on le sait, il arrive à la 104e minute, mais il y a aussi le coaching de Roger Lemaire, qui avait déjà été déterminant parce qu'il avait déjà fait rentrer Sylvain Wiltord et David Trezeguet. Il y a un troisième homme qui va être clé dans cette prolongation, c'est Robert Pires. Voilà. Et je vais vous en parler, évidemment, il y a ce but qui est pour moi un chef-d'œuvre technique de bout en bout. Tout simplement, on s'en souvient, je vais vous expliquer comment ça se passe. Il y a Robert Pires qui est sur le côté, qui fait une chevauchée fantastique pour aller au bout du terrain et centrer. Et là, il trouve David Trezeguet au cœur de la surface, qui place une demi-volée superbe du gauche, qui va dans la lucarne de Francesco Toldo. Évidemment, c'est le but en or. C'est ce qui rend particulier aussi ce but, c'est-à-dire que c'est fini, la France est championne. Le geste de Trezeguet est sublime. Et ce que j'ai adoré, moi, ce qui m'a marqué, c'est la célébration derrière. Je me souviens de Trezeguet qui exulte, qui enlève son maillot, qui va courir vers le bord du terrain. Et là, il rejoint Thierry Henry. Et aussi cette course superbe de Roger Lemaire, qui n'était pourtant pas celui le plus exubérant, mais qui court les bras en croix vers justement David Trezeguet, Thierry Henry et tout son groupe. C'est superbe, c'est un moment unique. Alors évidemment, grâce à cette règle du but en or, qui rend les choses un peu plus exceptionnelles, mais je trouve que le geste, vraiment ce geste de David Trezeguet, c'est un but qui est magnifique, vraiment, c'est du David Trezeguet, c'est l'attaquant pur, l'avant-centre, l'avant-centre que j'adorais justement parce que c'était le vrai neuf. Et voilà, c'est en plus, ils font le doublé qui à l'époque était inédit, c'est-à-dire mondial-euro, c'est-à-dire qu'ils assument leur statut de champion du monde pour aller chercher cet euro. C'est la cerise la cerise en or, j'allais dire, sur le gâteau.
C'est intéressant parce que
c'est le gâteau sur la cerise.
La cerise en or, ça fait mal quand même.
Ah, il faut pas la manger.
C'est intéressant ce que tu dis, Glenn, parce que c'est difficile de séparer les deux buts. Finalement, les deux buts sont très liés. Et Viltord, ouais, le but dur. De Viltord comme celui de Trezeguet, tu aurais pu choisir Viltord sans aucun problème parce que
c'est ça,
ça a délivré presque plus l'équipe de France. Et comme on le dit régulièrement, le but de Viltord, ouais, derrière, les Français savaient qu'ils allaient gagner. Le match avait basculé. Et c'est, moi, pour l'avoir être retourné à Rotterdam avec Manu Petit, pour raconter ce but, etc. Tu racontais l'histoire de voilà d'Attirant qui fait signe aux Italiens de se rasseoir. On a moins vu, mais Fabien Barthez se tourne aussi vers le cop italien avec des doigts levés pour leur dire voilà.
Un doigt levé surtout.
Ouais. Voilà, là on avait compris. C'était pas la victoire, mais il avait compris Fabien Barthez que là on
ne peut plus perdre. Le but de Wittland est le tournant.
Tous ceux à qui j'ai demandé disent que oui, à ce moment-là ils savent qu'ils ont gagné. Parce qu'ils disent, enfin ils savent, c'est facile de dire après, parce que les Italiens, là, ils reviennent de trop loin, ils ont tenu ça pendant 93 minutes. Et puis en plus, le but de Viltord, moi je me souviens pendant le match, je me dis, si ça marque, ça viendra de ce côté-là, parce que ça venait toujours du côté gauche, mais quand tu vois le but de Viltord, il est d'une cruauté absolue pour Toldo, il faut voir le ralenti hyper marquant, de voir Toldo qui voit le ballon passer sous sa main, et qui, avant que le ballon quasiment soit dans ses filets, se tient la tête en disant, enfin voilà, ça nous a échappé là. Et là, la bascule, elle est évidemment là parce que les Italiens ont compris que ça va être dur parce que évidemment là, c'est même plus les jambes, c'est la tête qui ne marche plus. Et tu disais, c'est marrant parce que tu disais Glenn sur le but de Trezeguet. L'action de Pires, c'est vraiment une action Pires. C'est ses débordements à l'époque, il faisait très bien, un peu comme Ribéry, c'est-à-dire des crochets un peu bruts avec des accélérations. Et Trezeguet, dans toute sa splendeur, on lui met un ballon dans la boîte, il y a un peu d'espace, il met cette frappe du gauche, qu'il est peut-être le seul à pouvoir mettre comme ça. Voilà. Donc il y a vraiment toute leur maestria sur ce but. Évidemment, une énorme joie, parce que comme tu l'as dit, ça fait le doublé.
Et Maxime, on avait écrit un long récit là-dessus, sur cette finale. Et tous ceux qu'on a interrogés nous avaient aussi dit. Franchement, on n'en voyait pas le bout, on n'avait pas de plan B contre cette équipe d'Italie. On était pris au piège, en fait. Et cette équipe de France, qui était peut-être au sommet de sa gloire, peut-être qu'elle n'a jamais été aussi forte que lors de ce tournoi à l'Euro 2000, finalement, il se retrouvait dans un cul-de-sac. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Gigi Riva, qui était le manager d'Italie, avait pris le trophée. Il avait mis, vous savez, les petits drapeaux sur le trophée. Il avait mis les petits drapeaux de l'Italie. Donc voilà, il restait 60 secondes à jouer, je crois. Donc c'était quasiment fait. Et c'est ce qui explique aussi tout ça, enfin la dramaturgie de ce match-là, c'est que la France était dans un cul-de-sac. Le trophée était promis aux Italiens. Ils étaient persuadés de l'avoir. Et ce but de Viltord et le but de Trezeguet, c'est un sommet d'émotion. Voilà, c'est vraiment ça.
Et c'est vraiment moi ce que Lizarazu m'a dit. Quand tu demandes à Lizarazu quelle équipe il préfère, il dit « je préfère jouer au 98 » parce qu'il dit qu'à 2000, on commence à basculer quand même. Parce que lui, bon, peut-être parce qu'il est défenseur aussi, qu'il préfère la solidité. Mais il n'y a pas de plan B, c'est exactement ça. Ils arrivent en finale en disant « bah non, mais on est l'équipe de France, on va jouer le jeu ». Et comme tu dis, ils ne savent pas quoi faire finalement parce qu'ils ont une équipe qui tactiquement les a coincés. Et jusqu'à la 93e, c'est mort de chez mort. Et ce qui est intéressant, tu parlais aussi, je finis là-dessus, sur les célébrations, Glenn. Cette célébration, elle est unique aussi à la fin parce que les joueurs de l'équipe de France vont rester très très longtemps sur la pelouse, mais pas à faire des tours d'honneur. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre en cercle, la vieille garde qui va se mettre en cercle. Et finalement, peut-être que ce soir-là, on sait que Deschamps va arrêter. Il y a la fameuse discussion avec Roger Lemaire, Laurent Blanc va aussi arrêter. Et c'est ce soir-là que ça se termine. Et il y a ce moment sur la pelouse où ils vont rester de longues minutes entre eux, comme autour d'un feu de bois, quasiment, à discuter parce qu'ils savent que leur histoire, là, ils sont au sommet, mais que c'est terminé et que derrière, bah, rien ne sera jamais comme avant. Puis évidemment, 2002 sera la traduction de tout ça.
La débandade.
Après, je veux bien qu'en 98, ils avaient toujours un plan B et pas en 2000. Enfin, France-Croatie, moi, je ne vois pas de plan B. Hein. Ils sont complètement pris dans ce match et enfin, le plan B, si le plan B c'était un doublé de Lilian Thuram, c'est vraiment très très fort.
C'était hein, le plan C là.
Ah, c'était le planté. Non, il n'y avait pas de plan B ce jour-là non plus, mais voilà, c'est ce France-Italie. Ce qui est marrant, c'est que la Coupe du Monde 98 et l'Euro 2000, c'est un peu le miroir inversé, c'est-à-dire qu'en 98, ils maîtrisent la finale de façon exceptionnelle alors qu'ils n'ont pas maîtrisé grand-chose avant. 2000, c'est vraiment tout l'inverse. Même si, effectivement, c'est très compliqué contre l'Espagne, que c'est en prolong contre le Portugal. Leur match le moins abouti, c'est la finale. Alors, c'est exactement l'inverse en 98.
Et juste sur Pires, une petite anecdote qu'il avait révélée, je crois, sur le site de la FFF, parce qu'il est décisif, évidemment, sur le but que tu as raconté, Glenn. Mais il a une énorme pression. Et au début de la prolongation, enfin, juste avant la prolongation, il y a deux saillies qui viennent derrière lui. Et qui lui souffle à l'oreille, maintenant on va voir de quoi tu es capable. Il lui met une pression fondamentale et Pires dit c'est vrai, il venait de rentrer en jeu et que voilà, il avait les jambes qui tremblaient, surtout de Saïd, le taulier qui vient de dire ça derrière. Et puis peut-être que ça a eu une incidence finalement.
Je viens de revoir le but, Martin, ça me fait un peu penser ce que fait Pires. Alors, il n'est pas exactement dans la même position. Rocheteau est plus près du but, mais ce qu'a fait Rocheteau contre le Dynamo de Kiev sur le troisième but. C'est un petit peu la même attitude là, avec le centre en retrait.
Un peu à l'arrache aussi, quand même.
Un peu à l'arrache, ouais. Un peu à l'arrache. Ça me fait penser à ça, je n'avais jamais pensé, c'est marrant.
On a parlé de ces quatre buts et quelques-uns d'autres, notamment France-Croatie avec ce doublé de Thuram. Est-ce qu'il y a d'autres buts, messieurs, que vous avez, voilà, avec lesquels vous avez hésité? Des buts marquants, effectivement, de l'équipe de France.
Martin, moi, il y a des... un petit mot au-dessus, là, mais Benjamin Pavard, évidemment. Ouais. Forcément, un Pavard à la Coupe du Monde 2018.
Ben, il y a les buts de la génération Deschamps, quand même, qui sont importants. Je pense que dans la chronologie de la génération Deschamps, il y a le premier but de Sacco face à l'Ukraine, quand même, qui lance une soirée un peu dinguissime et qui lance toute la suite. Parce que si tu ne te qualifies pas pour la Coupe du Monde 2014, ben, il n'y a pas tout ce qui suit, en tout cas pas avec Didier Deschamps. Mais évidemment, je pense que le plus important de cette génération-là, c'est le but Pavard. C'est le but qui lance un peu la folie dans le tableau final, parce que l'équipe de France fait franchement un premier tour pas terrible en Russie. Et puis ce but de Pavard, il libère un peu les énergies dans la célébration aussi. On a des célébrations qui sont revenues après avec l'équipe de France, avec toute l'équipe qui rentre sur le terrain, les remplaçants, etc. Mais c'est la première fois, parce qu'il y a un côté aussi un peu démentiel de ce but-là. Personne ne l'attend. Je veux dire, il y a Lucas Hernandez à la passe décisive, Pavard à la réception qui met une demi-volée en lucarne. 8 personnes ne connaissaient 6 mois plus tôt. Lucas Hernandez et Pavard.
Matuidi sur l'ouverture.
Et Matuidi sur l'ouverture. Ces deux-là, ils ne devaient pas démarrer quand même la compétition. Hein. C'était Sidibé et Mendy, normalement, qui devaient démarrer cette Coupe du Monde. Donc, il y a un côté un peu irrationnel et qui va lancer cette campagne de l'équipe de France, puisqu'après ce but-là, l'équipe de France ne sera plus jamais menée au score. Et puis, elle va aller effectivement jusqu'à ce sacre-là. Mais dans le côté irrationnel, ce but Pavard, pour moi, symbolise vraiment l'époque des champs qui, quand même, dans l'histoire de l'équipe de France, c'est pas rien, une finale de l'Euro.
C'est vraiment le Thuram de 2018. Sauf que Thuram en met deux en plus, donc c'est complètement encore plus dingue, mais c'est un peu la même histoire.
Et ce qui était fou, c'est qu'au moment où les Argentins prennent les devants dans ce match-là, dans le stade, l'ambiance est incandescente et que là, on se dit que... Ouais. Enfin, on ne voit pas forcément comment ils vont s'en sortir parce que il y a eu le premier tour, et puis voilà, pour s'en sortir, c'est ce but improbable lancé par Matuidi, par un arrière-gauche après qui centre pour un arrière-droit qui est de l'autre côté. Et tu parlais de célébration, moi, une image qui m'a marqué, comme tu dis, c'est tout le monde qui rentre sur le terrain. Et quand tu revois le ralenti aussi après la télé, tu vois, je crois que c'est Tolisso qui est derrière le filet, qui se tient la tête comme ça, qui le voit arriver, qui attend, et c'est formidable, parce que voilà, c'est sûrement le plus beau but des Bleus en Coupe du Monde, et il est d'une importance.
Et c'est le plus beau but de la Coupe du Monde 2018 aussi.
Ouais, il avait été élu, ouais.
Et encore une fois, c'était une équipe hyper poussive, une équipe qui... On savait qu'il y avait du talent dans cette équipe, mais c'était franchement pas beau ce premier tour.
Le début de match contre l'Argentine est loin d'être terrible. C'est même plutôt inquiétant. Face à une équipe d'Argentine.
Non,
on est à 2-1. Pardon, excusez-moi, on est à 2-1. Je parle de scénario.
Oui, mais c'est contre le cours du jeu, pour le coup.
Voilà, une équipe d'Argentine qui est au premier tour pas du tout séduisante.
Parce que tu les bouffes en première période, mais tu es mené au score.
Oui, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que le scénario était inquiétant avec un 2-1 c'est au début de la deuxième période, si je me souviens bien.
Ouais. Parce que le début, c'est FIFA 2018. Ouais. Hein. C'est les mecs, c'est tu pousses devant et Mbappé court. Hein.
Très bien, messieurs.
Moi, j'avais juste un but avec lequel j'hésitais, qui est plus anecdotique que je pense que.
Thierry Henry contre l'Irlande.
Non, mais sauf qu'il ne marque pas. Tu vois, c'est toujours
les mêmes. Ah oui, c'est vrai. Évidemment.
Moi, j'hésitais parce que je me disais, soit je prends Kostadinov, prendre un but bulgare, c'était pas très bien vu. J'imagine que j'allais être raillé ici. Et c'est le but de Djorkaeff contre la Pologne en 1995. Parce que s'il n'y a pas ce but-là, ça aussi, ça fait partie des soirées un peu bizarres de l'équipe de France. C'est un match à qualification pour l'Euro qui se joue au mois d'août. C'est un truc dont on a perdu l'habitude, évidemment. Déjà, il n'y a même plus de match au mois d'août. Et c'est un match où j'ai rarement vu un gardien adverse. On parle de Chilavert, mais ce que fait Wozniak ce soir-là dans les buts polonais, c'est 100 fois au-dessus. Il arrête tout. C'est la Pologne mène 1-0. L'équipe de France n'est pas très bien embarquée dans les qualifs. Lizarazu va avoir un pénalty qu'il va rater. Et puis là, on joue à 3 minutes de la fin. Il y a un coup franc qui est côté droit, qui n'est absolument pas pour un droitier, mais que Djorkaeff va aller tirer et qui va les mettre au deuxième poteau. Je vous invite à aller voir la frappe, qui est assez improbable, qui est sûrement un coup franc assez unique dans sa carrière, parce qu'il va le tirer de l'autre côté. Ça fait un partout, et on se dit qu'en plus, encore à ce moment-là, que l'équipe de France va rater l'Euro, parce qu'elle a raté ce match-là. Et il y aura évidemment la Roumanie derrière, le match qui est fondateur de l'époque Jacquet, l'époque Zidane. Victoire en Roumanie 3-1, et l'équipe de France ira à l'Euro, et puis on connaît la suite. Mais ce but-là, ça fait partie des buts oubliés, je trouve, mais qui ont une importance fondamentale, et qui ont aussi cristalliser l'importance de Djorkaeff dans l'histoire de l'équipe de France, parce que si à ce moment-là de l'histoire des Bleus, il n'y a pas de Djorkaeff, il n'y a pas grand monde pour les sortir de l'ornière et il n'y aurait pas eu toute la suite dont on a parlé après.
Intéressant, mais ton choix était osé, Maxime, hein, et on aime ces choix.
À quoi ça tient, un destin, hein, Maxime.
Et à quoi ça tient, la fragilité, comme dit Alain.
C'est rigolo parce qu'on n'a même pas mis un but de la finale contre le Brésil ou des choses comme ça. Quoi,
c'est vrai.
Et pour aller dans le même sens. Et non, que parce que c'est ce qu'on disait, c'est tellement maîtrisé que finalement le destin de cette équipe, il s'est noué avant avec Thuram et avec Blanc, quoi.
Presque ou de France Croatie d'ailleurs, de finale de Coupe du Monde. Non, mais c'est rigolo.
Oui.
Pour aller dans le même sens que Maxime sur son choix de Kostadinov, est-ce que le but d'Eder en finale de l'Euro peut être considéré aussi comme un acte fondateur pour la suite et la victoire de ce groupe?
Non, parce que l'histoire de ce groupe était déjà en marche. Ouais.
Et l'acte fondateur, c'est l'Ukraine. C'est 2013.
Non, ce qu'apprend Deschamps sur ce match-là, c'est pas d'avoir perdu, c'est dans l'avant-match et de pas sanctuariser l'avant-match et de pas événementialiser. Voilà, c'est ce qu'il répète à chaque fois. Il dit on a fait trop d'affaires de cette finale, mais c'est pas tant le but, c'est la façon d'aborder le match qui a changé par rapport à la Croatie 2 ans après.
Très bien, messieurs. Merci pour votre participation à ce podcast, toujours très intéressant et réjouissant.
Est-ce qu'on pourra faire un podcast sur les buts les moins marquants de l'histoire des Bleus?
J'en ai une pelletée là.
C'est pas mal, voilà. Des beaux buts, mais qui n'ont absolument pas compté, que tout le monde a oublié.
On a fait Tim Bigomis contre l'Équateur.
Ouais. Papin contre la Belgique.
Voilà.
Eh bien, écoutez, pourquoi pas, une autre fois. Je vous rappelle, ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles, vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Merci messieurs, on espère vivre de nouveaux moments, de nouveaux buts marquants dans les mois, dans les années à venir avec l'équipe de France, on n'en doute pas.
Tous les 2 ans maintenant, Coupe du Monde bientôt.
Voilà, avec l'euro et l'euro entre-temps, hein, tous les ans.
L'euro tous les 6 mois.
Allez, merci messieurs, à bientôt.
Salut.
Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.